on connaît la chanson.
1, 2, 3, 4.
Chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez. Et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
Aujourd'hui, je vous propose de retrouver la soirée que nous avons passée chez mon oncle. Et nous allons d'abord commencer par la seconde partie de la soirée. Seconde partie où nous avions un invité, Nicolas Bacchus, invité de dernière minute parce que le duo Marilus avait été touché par le Covid, comme beaucoup de gens en ce moment. Alors du coup, il a profité, il était de passage à Nantes brièvement, et c'est à toute vitesse qu'il est venu nous rejoindre et qu'il a apporté toute son histoire, sa verve de chansonnier. Vous allez voir, c'est pas de la rigolade, ou au contraire, c'en est beaucoup. Et on va faire connaissance avec un personnage qui est un personnage important dans la chanson française depuis des décennies, on va dire, puisque voilà, ça fait un moment que Nicolas Bacchus est connu des publics qui s'intéressent à la chanson. Allez, je vous laisse le découvrir. Nous sommes toujours chez mon oncle et nous avons aujourd'hui un visiteur un peu inopiné, c'est ce que je disais tout à l'heure.
J'adore inopiné.
Ouais, c'est voilà. Et qui.
Ça fait deux fois.
Oui, ça fait deux fois, mais une fois dans chaque émission en fait. Hein.
Ah, tout à l'heure c'était opiné, c'était pas pareil.
Et là c'est inopiné.
Ouais, apparemment.
Donc. Je vous propose d'abord d'écouter deux versions d'une même chanson, puisque nous commençons toujours ce moment-là par un moment d'écoute. J'ai choisi en fait de croiser les thèmes, puisque je sais que Nicolas Bacchus connaît et aime bien Agnès Bill. Il aime bien au point d'avoir enregistré une chanson avec elle sur un de ses disques. Et pour ma part, j'ai découvert hier qu'elle s'était intéressée. Alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai regardé un documentaire pas très intéressant, présenté par Léa Salamé, vous imaginez, à la télévision hier, sur les maisons closes.
Pléonasme.
Mais ces fameuses maisons closes, en fait, m'ont rappelé à ce moment-là, au moment où Agnès Bill est intervenue dans le documentaire, parce qu'il y avait Agnès Bill dans le documentaire, où on parlait finalement des prostituées, et où elle a chanté à Saint-Lazare, cette chanson de Bruant. Et je me suis dit, mais Agnès Bill, elle ne chantait pas La Complainte des Filles de Joie dans un de ses disques. Et
mais
oui,
si.
Effectivement, je l'ai vérifié, elle la chantait. Et donc, je vais vous proposer deux versions de cette chanson. La version originale par Georges Brassens et la version différente par Agnès Bill. On commence avec Brassens.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole. Faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Et maintenant, c'est la version d'Agnès Bill.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grôle. Parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grôle. Y'a des clients, y'a des salauds, y'a des clients, y'a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempe jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien que toute la vie elles fassent l'amour, bien que toute la vie elles fassent l'amour, qu'elles se marient 20 fois par jour, qu'elles se marient 20 fois par jour, la noce c'est jamais pour leur fiole. Parole, parole, la noce c'est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole. Parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Avec la chanson suivante.
Mais oui,
et sinon, on suit tout l'album. Moi, je m'en fous. J'aime bien Agnès Bill.
Voilà, c'était donc la version d'Agnès Bill. Alors, évidemment, comme à l'accoutumée, si quelqu'un a quelque chose à en dire, à évoquer cette comparaison entre les versions, c'est.
Qu'il n'hésite pas à se taire, parce que là, on n'a vraiment plus le temps. Ouais.
Voilà, alors, bah, je vois quelqu'un qui lève la main. On va te donner un micro.
Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ce que je voulais dire, c'est que j'écoutais. Donc, bonsoir. Je voulais dire que j'ai préféré presque la version d'Agnès Bill.
Presque.
Parce que elle la chante avec une certaine malice, avec une certaine un détachement. C'est plus coquin. C'est plus interprété. C'est plus. Elle y met presque plus d'interprétation de la personnalité. Quand elle interprète cette chanson.
Tout le monde se souvient ici du fait que Georges Brassens n'aimait pas du tout qu'on les interprète. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, quand on a eu Joël Favreau ici, il y a quelques mois, d'évoquer justement ça avec lui. Et il y a toujours eu une difficulté entre un... Primeur, Joël Favreau est venu, voilà, c'est comme ça.
On peut pas voir tous les jours Nicolas Bacchus. Hein.
Et donc Joël Favreau avait acquiescé sur le fait qu'effectivement, chez Brassens, il y a une version relativement plate, simple, sobre de ses textes et de ses chansons, et qu'il avait du mal avec le fait qu'on les mette un peu en scène et qu'on les fasse vivre différemment.
Mais sa malice était toute intérieure quand même.
Voilà.
Parce qu'elle se sentait quand même pas mal.
Elle se sentait. Et chez Agnès Bihl, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui suivent Agnès Bihl sur Facebook, mais c'est tous les jours qu'elle poste des gags, des bêtises, des plaisanteries plus saumâtres les unes que les autres. Et en fait, c'est un peu intrinsèque à son inquiétude.
Ah, c'est sûr qu'elle est un peu plus démonstrative que Georges Brassens. Hein,
voilà.
Comment dire ça pudiquement.
Oui. Donc voilà. Et effectivement, moi j'aimais bien l'idée de retrouver Agnès Bihl. Et alors j'ai appris hier en regardant ce documentaire que son arrière-grand-père avait été un des fondateurs d'un haut lieu de la vie montmartroise, qui est le Chat Noir. Voilà. Donc Agnès Bihl, en fait, a une histoire marquée. Je vous propose maintenant de faire connaissance avec Nicolas Bacchus, qui s'est déjà pas gêné pour prendre le micro et parler. Qui est Nicolas Bacchus ? Alors, peut-être, Nicolas, comment
bonsoir.
On commence par les origines ?
Ah bah, tu commences par ce que tu veux, c'est ton émission.
Bah, à l'origine...
Même si j'aime bien la voler, comme ça.
À l'origine, Nicolas Bacchus...
Tu es un spermatozoïde perdu parmi d'autres.
Voilà, ça a commencé comme ça. Encore un coup de pin, quoi, si je comprends bien.
Voilà.
Voilà.
J'opine.
Et à partir de ce moment-là, tu es tombé dans un bain de chansons et dans les morceaux que tu m'as demandé de proposer, de préparer pour cette émission, il y avait donc les morceaux de l'origine. Alors il y avait Renaud, il y avait Sarclot, il y avait Fontéval et il y avait aussi Jacques Brel.
Oui, bah oui. Mes parents écoutaient ça, beaucoup de Brel, de Brassens aussi.
Peut-être un peu moins Fontéval.
Barbara. Ah non, si, Fontéval, si, c'est mes parents à fond, ouais, bien sûr.
Ah ouais, vraiment.
Donc toute l'origine de Café Théâtre, Provoque, tout ça, c'était vraiment...
D'accord.
J'ai vu mon premier spectacle de Fontéval avec tous les gros mots, avec tous les trucs, à 8 ans.
Oh.
Et quelques. Donc j'ai quand même un lourd passif.
Ah oui, de toute évidence. Donc, j'ai envie qu'on commence quand même par une chanson de Jacques Brel. C'est vachement plus retenu quand même que Fontéval.
C'est un peu... Oui, c'est pas exactement la même langue. Oui,
Et tu as choisi... Alors, c'est pas moi qui ai choisi, c'est toi qui as choisi Madeleine.
Oui, parce que c'est la première chanson que j'ai chantée en concert dans les bistrots aussi, après.
Voilà.
Donc c'est à la fois les origines, puis après quand j'étais dans une chorale, on a fait un spectacle Brel et c'est un des premiers morceaux que j'ai arrangé pour un orchestre. Et après c'est un des premiers morceaux que j'ai chanté dans les bars quand je chantais.
Tu vas nous expliquer comment tu es devenu arrangeur aussi,
voilà.
Parce que...
Non, je ne suis pas arrangeur, il ne faut pas exagérer. Là j'arrange un peu, tout ce que j'arrange là c'est la réalité si je dis que je suis arrangeur. Arrangeur de réalité, là, en limite.
Je vois. Allez Madeleine.
Enfin, je suis plus arrangeur qu'arrangeant, c'est sûr.
Ce soir, j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas. J'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir, j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir, j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. Elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de gêne. Madeleine n'arrive pas, Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas ce soir.
J'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas ce soir. J'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, ce soir j'attendais Madeleine. Tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas, elle est pourtant tellement jolie. Elle est pourtant tellement tout ça. Elle est pourtant toute ma vie. Madeleine qui ne viendra pas. Mais demain j'attendrai Madeleine. Je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain j'attendrai Madeleine. On prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, demain j'attendrai Madeleine. On ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Et Madeleine, elle aimera ça.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Ah ! Et là, bam ! Dans la gueule à tout le monde. Si vraiment quelqu'un dans la salle trouve que veut faire une remarque, dire que c'est plus interprété que Brassens, il peut fermer sa gueule. Hein. Il peut.
De toute évidence.
Pardon, oui.
Non, mais effectivement, alors moi, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est que tu avais arrangé quelque chose autour de Jacques Brel. Donc, quand tu
en
dis...
fait, c'est la chorale à laquelle je participais qui a fait un énorme spectacle sur Jacques Brel. Alors, j'ai vu que à Nantes ou dans certaines villes, il y a des gens qui préparent des spectacles sur Cabrel. Sur la fille de Jacques Brel, c'est ça.
Francisca,
voilà, Francisca Brel. Du coup, nous, on avait voilà le spectacle de la chorale, c'était sur Brel. Et voilà, j'avais fait mon frère, il jouait de la trompette, moi je jouais de la guitare, on avait une copine qui jouait de la flûte, et donc j'avais fait j'avais réécrit, relevé des trucs pour que ça sonne en guitare, trompette, flûte.
Mais là, t'es en train de nous dire en fait que tu as reçu une éducation académique.
Exactement, j'étais au conservatoire, monsieur, pendant des années.
Voilà, un
et
truc
puis après, j'étais pas très doué en guitare classique, et du coup, j'ai appris l'accompagnement tout seul, et après, j'ai fait un mix des deux, donc j'ai un style un peu bâtard, pas très académique pour le coup, mais je m'accompagne, quoi, ça suffit pour accompagner. Après, quand il faut faire des disques et qu'il faut des guitaristes, j'en embauche, hein, des vrais gens qui jouent de la guitare, voilà. Alors non, j'appelle pas Thibaut de Fever, n'a jamais enregistré avec moi, mais c'est un bon pote et on s'est déjà croisé.
Ça pourrait. Ouais. Alors lui,
il m'a filé quelques plans de picking que j'arrivais pas à faire. Ah ouais. C'était un très bon
zut. Donc en fait là, Jacques Brel, c'est quand même très très interprété effectivement,
oui.
Avec des changements de ton à chaque couplet quasiment, mm-hmm. Des changements d'arrangement à chaque couplet, un travail qui passe du trombone au saxophone pour accentuer la note mélancolique. Ça, c'est quelque chose qui te parle?
Ah oui, en fait, j'ai été élevé à ça. Après, il a fallu que je rabote un petit peu, au contraire, parce que on fait plus ça. Enfin voilà, on peut plus faire exactement les mêmes choses maintenant. Cela dit, sur scène, dans les bistrots, tout ça, je fais toujours du guitare-voix parce que c'est mal payé. Mais sinon, sur les disques, quand on a un peu plus de temps, un peu plus de luxe, j'ai tendance à surarranger, effectivement, à mettre des à faire que chaque couplet, son instrument, etc. Donc je rameute le banc et l'arrière-banc des potes musiciens et des gens que j'apprécie pour donner ces trucs-là. Et pareil pour Renaud, j'avais tendance à chanter un peu comme ça. Après, une fois qu'on essaye de trouver sa propre personnalité, de mettre son propre nom sur un disque ou sur des affiches de concert, il faut à la fois être... conscient d'où on vient, on va dire, en tout cas de savoir, d'être plein de ces héritages qu'on a, et en même temps s'en défaire assez pour trouver sa propre manière, sa propre... et c'est souvent la petite équation qui est un peu dure à tenir au début, et puis bon, voilà, petit à petit, j'espère qu'on trouve.
Ce qu'effectivement on constate en écoutant tes disques, c'est qu'il y a une instrumentation assez riche. Il y a un violoniste qui travaille
sur les deux derniers albums, il y a un violoniste excellent.
Excellent, oui, effectivement. Bon, il y a de la batterie.
Sylvain Rabourdin, il s'appelle. Ouais. Il joue avec pas mal d'autres membres.
Batterie, basse, des guitares.
Un pianiste qui s'appelle Giovanni Mirabassi, qui a eu quelques victoires du jazz, qui a été le compagnon d'Agnès Bille, qui a composé une grande partie de ses chansons.
Tout à fait, qu'on entendait avec Agnès Bille dans les premiers temps.
Sur quasiment tous mes trois derniers albums aussi.
qui est un grand pianiste
un
de
grand
jazz.
Un grand pianiste
en fait.
De jazz.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a de commun avec toi, en fait? Comment vous êtes-vous connu? Par Agnès Bihel.
Par Agnès Bihel, au départ.
Ah, voilà. L'articulation se trouve à cet endroit-là.
Exactement.
Il n'est pas lyonnais, lui?
Pas du tout. Ouais. Mais moi non plus. J'habite à Lyon maintenant depuis 6 ans, mais j'ai d'abord été estampillé chanteur toulousain parce que j'ai fait mes deux premiers albums à Toulouse. Mais sinon, je viens d'Auvergne, comme tout le monde. Oui, bah si, l'Auvergne, c'est pas le centre du monde. Ah, je croyais.
Je connais un certain nombre de gens qui viennent d'Auvergne, effectivement. Mais je sais pas si statistiquement, c'est vraiment totalement vérifiable. Alors, moi, ce qui m'a intéressé aussi quand je t'ai découvert un peu mieux, et que j'ai approfondi mes recherches, c'est que non seulement tu fais... Ça te parle encore.
Ça t'embête pas que je t'interrompe? Si vraiment, si à un moment, au cours de mes interruptions, t'as envie de parler, vraiment, vas-y.
C'est, ouais. Il est arrivé que je sois obligé de tirer les verres du nez de certaines personnes. J'ai un souvenir en particulier d'une discussion avec Anne Sylvestre qui avait été terrible parce qu'elle, au contraire, c'est l'inverse de toi. Il faut lui tirer les verres du nez.
C'est pas toujours très propre. Oh,
tu as raison.
Surtout en période de Covid.
Bon, surtout en période de Covid, tu as raison. Donc, effectivement, ce qui m'a intéressé chez toi, c'est aussi que non seulement tu es auteur, compositeur, interprète, mais que tu vas au-delà. Donc j'apprends à l'instant que tu es aussi arrangeur,
ouais,
avec ce bagage classique qui t'a permis d'écrire sur des portées, des choses pour un trompettiste frère et une sœur. Enfin bon, voilà, des gens qui... Non, il n'y avait pas de sœur. Donc la cousine, alors.
Et... Pas du tout. C'est pas grave. Non, des potes, quoi. D'ailleurs, le reste, c'était des amis, des gens qui étaient dans la même chorale.
Qui jouaient toutes sortes d'instruments. Voilà. Et il y a encore autre chose, c'est que très tôt, tu t'es mis aussi à devenir producteur.
Oui, alors au début, c'est par la force des choses, parce que quand tu es un jeune chanteur, personne ne veut te produire, vu que
tu vois,
tout le monde s'en branle. En fait. Je pense qu'un des premiers conseils qu'il faut donner aux jeunes chanteurs, aux jeunes chanteuses, c'est que personne ne t'attend. Donc, à un moment... Non, mais c'est vrai. Et oui. Donc, à un moment, au début, tu le fais par obligation, l'autoproduction. Et j'ai fait ça au tournant des années 2000, puisque mon premier album, il est en 99 et le deuxième en 2002. Et c'est le moment où il commençait à devenir plus intéressant de le faire aussi par choix. C'est-à-dire la grosse crise du gros disque était déjà là, mais la crise du disque n'avait pas encore atteint les autoproduits. Donc les majors, les producteurs mettaient de moins en moins d'argent sur des découvertes, tablaient plutôt sur des valeurs sûres. Par contre, il y avait quand même moyen déjà de commencer à faire des choses propres avec moins d'argent parce que les gens commençaient à s'équiper en home studio, les studios commençaient à avoir moins de sous, donc à faire des espèces de rabais sur les séances, ce qui est encore plus le cas maintenant. Mmh. Et donc, finalement, avec une base de fans, de gens qui venaient écouter, on a inventé le crowdfunding avant que ça existe, hein, quand on faisait des souscriptions à l'époque.
Tout à
fait.
Il n'y
avait pas Internet, mais il y avait quand même de quoi écrire aux gens en leur disant « si vous voulez mettre 3 sous, ça m'aidera à produire mon album ». Et finalement, on arrivait à mettre quasiment autant de sous sur un album qu'en aurait mis n'importe quel producteur ou major. Qui d'une part ne voulait pas le faire parce qu'on les intéressait pas et d'autre part en plus aurait fait chier en disant la couleur de la pochette, la photo pas comme ça et tout. Donc finalement comme je suis assez indépendant et relativement chiant, je pensais qu'être mon propre patron c'était le seul moyen de pas trop m'engueuler avec mon patron. Et donc voilà, j'ai fait comme ça et ce qui était par obligation au début, l'autoproduction, est devenu un choix revendiqué après et m'a aussi permis de produire ou coproduire d'autres chanteurs ou musiciens avec lesquels je travaillais qui, après, voilà, qui savaient pas faire ça, on va dire. Parce que faut aussi aimer ça et faut aussi savoir le faire. Je veux dire, tout le monde n'est pas obligé parce qu'il est chanteur de savoir en plus faire une affiche, faire son émission de radio, produire l'album, etc. Donc
si
j'ai aussi aidé des potes. J'ai aussi aidé quelques potes.
Si
vas-y. Allez, chacun
instant.
Son tour.
J'ai l'impression que non seulement tu es passé par le conservatoire, mais tu as fait aussi une école de commerce alors.
Pas du tout.
Ah,
non, non, les boîtes à cons, c'est très peu pour moi. Mais
j'avais le sentiment aussi.
Par contre,
qui sort d'une école de commerce ici?
Beaucoup de gens. Hein. mais par contre, non, j'ai appris un peu sur le tas. J'ai eu des conseils extrêmement précieux d'une personne à qui je pense pas qu'il passe 2 semaines sans que je pense à elle, qui est Misiane Alès, qui était la productrice de Juliette et
ah
qui
ouais.
a vraiment elle aussi construit toute son parcours de prod sur le tas en apprenant comme ça et qui se trouve voilà, comme Juliette était à Toulouse en même temps que moi, qu'on a fait connaissance comme ça, j'ai connu et fréquenté cette productrice incroyable qui est Misiane Alès et qui m'a beaucoup beaucoup aidé, conseillé, voilà, donc j'ai appris surtout comme ça.
Alors, je vais dévoiler quelque chose que tout le monde sait, puisque j'imagine que c'est sur ton site internet. C'est qu'avant de faire chanteur, tu faisais éducateur spécialisé.
Moi, j'étais éducateur spécialisé, ouais.
Voilà. Et donc, tu t'es confronté à certaines réalités auxquelles peu de gens sont amenés à se confronter, j'imagine, et en particulier du temps où tu étais à Villefranche-de-Rouergue.
Ouh là là, mais il sait tout. Il a épluché ma bio.
C'est pas difficile, tout est là. Hein.
Tout est dans mon site, avez,
ouais,
sur mon site.
Sur son site. Donc,
à quoi me suis-je confronté?
Bah, tu t'es confronté à la police dès ce moment-là.
C'est vrai que c'est le premier article sur ma revue de presse. Ouais. Voilà. C'est le journal local de Villefranche-de-Rouergue qui relate quelques démêlés. Bah, faut dire que le commissariat de Villefranche-de-Rouergue avait eu le record de France de vote Front National Police cette année-là. Et du coup, sur l'espèce de concours de chansons qu'il y avait sur la place du Bled, j'avais dit ça et je leur avais dédié une chanson un peu trash, anti-Le Pen, bon, comme on en faisait quelques-unes à l'époque, un peu premier degré, mais ça faisait toujours du bien de se défouler, quoi.
Et ils n'ont pas
et
aimé
du coup,
ça.
Bah, comme ils n'avaient pas aimé, bah, en sortant, bah, je m'étais fait contrôler, évidemment, dans la rue, et le journal local s'était fait une joie de dire qu'un éducateur spécialisé de la ville avait ouvert sa gueule et s'était fait convoquer au commissariat. Donc c'est mon premier article de presse, vraiment, c'est ça.
Quel démarrage.
Mais hein. Après, ils ont parlé des chansons, hein, de la presse et tout ça. Il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres, des articles.
Après, tu t'es expatrié. T'as fait les quelques kilomètres qui t'amenaient jusqu'à Toulouse.
C'est ça.
Et là, tu as fait des rencontres. Et là, tu as finalement vraiment commencé ta carrière de chanteur, peut-être, non? Enfin.
Ouais, bah, j'avais chanté dans les bistrots avec mon frère autour de Clermont-Ferrand, Vichy, parce que c'était là que j'étais. Après, je me servais aussi. Je chantais pas mal quand j'étais éduc. Et entre les moments, entre les heures de service, j'avais commencé quand même à écumer les bistrots toulousains et ceux de la région sud-ouest avec mes bêtises. Alors moitié avec les chansons des autres et je commençais un peu à écrire les miennes à ce moment-là. Et quand j'en ai eu assez, ben voilà, je suis passé, j'ai fait plus que ça.
Et donc on va écouter un titre des Malpolis.
Ah oui, alors Rencontre toulousaine, incroyable.
Voilà.
Un duo qui s'appelait les Malpolis et qui ont écumé la France entière. Donc sûrement vous les avez vus à Nantes aussi. Et c'est un petit clin d'œil aussi à Trafic d'air, puisque cette chanson, il se moquait vraiment de tout le monde sans vergogne. Et cette chanson est une espèce d'hommage à la fille de Jacques Brel, donc Francisca.
Ça s'intitule
Sentiment.
T'as les yeux comme deux sentiers parallèles, dont on a l'impression qu'ils ne mènent nulle part, mais qu'il y a tout au bout des gens qui y habitent quand même. Et quand elle les ferme, soudain il fait plus noir. Oui, son regard brille de mille reflets, c'est une rivière d'argent où j'aimerais plonger. Dans le creux de son âme, me baigner et nager. Mais ça n'a pas l'air profond et t'as peur d'avoir pied. C'est une chanson d'herbe folle et de cailloux, chanson de trois fois rien, chanson de trois sous. Je l'ai faite pour elle, je vous la vends à vous. Chanson nue comme le vent, baptisée tout simplement Centime et Sentiment. Et chacun de ses gestes est un instant de grâce, comme quand à la fin du repas dans la cour on débarrasse la table et que le vent gonfle un peu la nappe en papier. Et qu'on dirait voir danser une robe de mariée. Souvent je la trouve belle, parfois je ferme les yeux. Ça dépend de la couleur que le soleil met dans le désordre de ses cheveux. Il en faut du talent pour oser écrire de telles images. Et pour les chanter, faut carrément du courage. J'ai ouvert par chez moi une école de chansons où l'on apprend ces mots qui forcent l'admiration. À la fin des exercices, je ramasse les brouillons. Y a des jeunes pleins de talent qui m'inspirent profondément Centime et Sentiment.
t'aime.
Moi aussi je m'aime.
Bla 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 bla. Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Ah ouais, le public du bar applaudit même les disques, donc là, je transmettrai aux malpolis qui ont arrêté leur carrière. Mais
ils n'ont jamais été invités à Stafford, j'imagine.
Sur ce coup-là, il a eu moins d'humour qu'on lui en prête d'habitude, mais
parce qu'on lui prête de l'humour.
Oui, quand même.
À Toulouse.
Oui. Vous on lui prête, mais enfin, il le rend vite. Hein.
Ah oui. C'est un peu ce que je pensais. Donc, parlons de Toulouse. En fait, Toulouse, c'est quand même un moment important.
Ah oui, c'est un moment important.
Tu m'as dit au téléphone que tu habitais à deux pas de l'Éclusane.
Exactement.
Cabaret qui fut tenu par Philippe Pagès, qui ensuite créa Le Bijou.
Voilà, exactement. Après, c'est devenu La Loupiote, où j'ai chanté, je ne sais pas, des dizaines de fois. Et j'ai fait les premières armes et le premier album sérieux enregistré en public au Bijou, justement, sous la houlette de Philippe Pagès, qui m'a beaucoup soutenu, fait tourner ailleurs, etc.
Et qui a aussi fait le prélude d'un de tes disques, de celui-là, j'imagine.
Ben oui, évidemment, voilà. Parce qu'il présentait les artistes. Donc moi, j'ai gardé sur le disque sa présentation.
T'as gardé sa présentation, voilà. Donc là, c'est quand même...
C'est lui qui fait tourner Manu Gallure maintenant, puisque ça murmure dans la salle, là.
Ouais, c'est lui qui fait tourner Manu Gallure. Manu Gallure, dont on aura l'occasion de reparler. Enfin, on pourra en parler
peut-être maintenant,
mais je pense que tu dois chanter une chanson qu'il a écrite.
Exactement.
Pour toi.
La dernière, qui a jamais été chantée à la radio. Voilà. Ça sera une première mondiale, ouais, ici, chez mon oncle.
Ouais, on n'en revient pas, là. Enfin, on est pétrifiés, littéralement.
Moi aussi. Ouais. Bon, parce que je ne la sais pas, en fait. Hein.
Ok. Bon. Donc, Toulouse, c'est quand même un grand moment. Tu y restes longtemps?
Oui, parce que j'y arrive quand j'ai fini mes études, pour commencer mon boulot d'éducateur. En même temps, c'est la première fois que je m'éloigne un peu de ma région natale. Donc là, j'y ai vraiment tout découvert, que ce soit ma vie professionnelle. Enfin, tout commence à Toulouse pour moi, ma vie professionnelle, ma vie sexuelle, ma vie musicale. Tout démarre. Oui, j'ai tout commencé assez tard quand même. J'avais 23, 24 ans. J'étais pas très avancé à l'époque. Enfin bon, il n'y avait pas Internet, Grindr n'existait pas. Donc c'était quand même. Mais tout a commencé à Toulouse. Du coup, les deux premiers albums aussi. J'y reviens souvent et j'en parle régulièrement dans les chansons aussi.
Toulouse.
Et puis il y avait un vivier de chanteurs et de chansons.
Je croyais que tu allais dire qu'il y avait un vivier de proie pour tes débuts dans ta vie sexuelle.
Mais là j'étais loin d'être un chasseur à l'époque. J'étais vraiment innocent, jeune et innocent.
Oui, parce que c'est sans vergogne en fait que tu évoques aussi tes parties de chasse, semble-t-il.
Dans tes chansons. Dans les chansons également.
Oui, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans ton site, il y a un endroit où on voit que tu es altersexuel. Est-ce que tu peux nous ouvrir quelque part?
Non, mais ça, c'est un... C'est un gars qui a écrit un article sur ça.
Ah ouais, c'est lui.
Parce que lui, moi, je me suis jamais défini comme ça.
Ah bon?
Mais effectivement, ce gars qui a un site qui s'appelle altersexualité.je-sais-pas-quoi, qui est très intéressant, m'avait rangé dans cette catégorie parce que, justement, j'évoquais diverses amours interlopes dans diverses chansons. Et du coup, il a aussi promu pas mal ce que je faisais. Donc,
sur son site.
Mais c'est pas moi qui ai inventé ce mot altersexuel.
D'accord. Ok, ça vient d'ailleurs. Alors, une chose est certaine,
pour moi, c'est sûr. Allez, d'ailleurs.
Tu vois, on y revient toujours.
Non, mais pas Cabrel en plus.
Ouais, mais...
c'était Pierre Bachelet. Donc vraiment rien à voir.
Ah, c'est vrai, ouais. Mais tu l'as chanté comme Cabrel, c'est pour ça.
Ouais, c'est pour ça. On peut tout chanter comme Cabrel.
Oui.
Ce soir, la tombe Marlène. Enfin bref.
Alors, comme tous les Auvergnats, finalement, tu es descendu à Toulouse, mais tu aurais pu aussi aller à Lyon.
Lyon, j'y suis venu plus tard, en fait, par divers détours. Après, je suis Auvergnat du Nord, hein, je suis plus Bourbonnais et Vichy, tu vois, c'est pas vraiment l'Auvergne qui va à Toulouse, c'est plutôt l'Auvergne qui va à Paris ou à Lyon, effectivement.
D'accord. Alors, c'était juste histoire de glisser Lyon, en fait, dans notre conversation, parce que ça fait partie, finalement.
Oui, j'ai vu
que
c'était gros sabots, mais assez habile.
J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas facile, hein, parce que finalement... Donc, Lyon.
Eh ben, Lyon, au pif. Vraiment au pif. Je suis allé après Toulouse, j'ai fait 5 ans à Paris, je suis retourné à Toulouse 2 ans, de nouveau 5 ans à Paris, et après j'ai dit ça suffisait, je cherchais un endroit, j'avais une pote à Lyon qui m'a dit Lyon pourquoi pas ? J'ai dit ah ouais pourquoi pas, j'y suis allé, et je m'y plais. Voilà, ça fait 6 ans que j'habite à Lyon. Au départ c'est pour faire un 6e album, mais ça fait 6 ans que j'y suis et j'ai toujours pas fait l'album, mais on n'a jamais été aussi près. Hein. Voilà.
On n'a jamais été aussi près. C'est un peu le sentiment que j'avais. Je me suis dit, mais ça fait un moment qu'est sorti le précédent, le live.
10 ans, ça va faire 10 ans cette année.
C'est ça.
Donc, il est temps.
Il est temps.
Voilà. En plus, j'ai eu 50 ans. Donc, je me dis que c'est une bonne...
C'est un bon moment.
Je le dis pour les auditeurs, parce que c'est vrai qu'avec cette voix jeune et enjouée, on dirait vraiment que je suis un perdreau de l'année, mais non, j'ai quand même 50 balais. Et puis je le dis aussi pour les gens du bar qui se disent « Oh là là, il fait jeune !» Et voilà, donc j'avoue quand même.
Et donc à Lyon, c'est là que tu as poursuivi ton travail et ton label, ça s'est passé
ouais,
là.
Le label Bacchanal Productions, ça a commencé à Paris et j'ai continué à Lyon. Oui,
Bacchanal Productions.
Ah oui, Bacchus, Bacchanal.
Oui, c'est normal. Ça, on continue.
Et Bacchanal étant les fêtes de Bacchus. Bon,
donc les amours interlopes et le reste, finalement, c'est à droite ligne, tu continues, tu persistes.
J'aime bien, j'enfile la métaphore.
Ok, et donc...
cette émission.
À Lyon, il y a des découvertes, il y a des gens à faire découvrir.
Et alors, justement, le vivier que j'avais trouvé à Toulouse, qui était vraiment une ville de chansons, que ça soit historique avec Nougaro. Moi, je suis arrivé en même temps où Juliette, Wally, tout ça, ont commencé à sortir. Bon, après, à l'époque des Motivés aussi, Zebda commençait à faire les trucs de Motivés. Puis, il y avait toute la petite scène alternative avec les Malpolis, Michel Muleman, et plein d'autres gens. Et là, j'arrive à Lyon, il y a aussi une scène lyonnaise qui est hyper active sur la chanson avec Frédéric Bobin, Renaud Bistan, Evelyne Gallet, des gens un peu plus connus, Kent vient de par là quand même, et comment elle s'appelle, Carmen Maria Vega, quelques autres qui sortent, Pomme qui a beaucoup de succès maintenant et qui faisait les mêmes scènes ouvertes que nous quand on a commencé à Lyon, et voilà, donc il y a un vivier de chansons aussi avec un réseau de petites salles à tout bout de champ, à Gendarme, plein d'autres, la salle des Rancy, la salle Léo Ferrer, enfin voilà, il y a plein de petits endroits où se produire, des salles plus grandes pour quand les gens qui ont pris un peu plus d'épaule, il y a vraiment de quoi aussi dégager un vivier, faire s'épanouir des tas de chanteurs et attirer des chanteurs autour pour faire ce vivier lyonnais.
Et toi, tu as continué à ce moment-là à produire des gens à Lyon, tu as poursuivi
ton
travail, c'est pour ça que tu ne fais pas de 10 pour toi, tu fais les 10 des autres.
Alors en fait, quand je suis parti de Paris, j'ai dit j'arrête un peu de produire les autres parce qu'il faut vraiment que je produise ce 6e album. Je me suis quand même laissé tordre par ma copine Michel Muleman qui faisait un album de duo et qui était super, donc j'ai quand même produit ça. Mais après, j'ai un peu lâché la rampe. Manu Gallure, il a recommencé à se débrouiller tout seul et avec Philippe Pagès pour faire le tourneur, parce que j'ai aussi été tourneur pour Manu Gallure et pour Sarclo, chanteur suisse. Et là, je disais, je vais m'occuper de moi. Puis le résultat, m'occuper de moi, ça a été pas faire grand chose, quoi. Donc je crois pas qu'en fait, j'en aurais peut-être pas fait plus si je m'étais occupé des autres autant, mais moi j'ai fait d'autres trucs, quoi.
Voilà. Alors on veut pas savoir puisque ça c'est pas public, donc tu te les gardes.
Si j'ai fait plein de trucs, des projets collectifs de scènes ouvertes au Festival d'Avignon, des choses comme ça. J'ai continué à m'occuper des autres et à faire chanter pas mal de monde, en fait.
Et tu as commis aussi des concerts déconfinés à tout bout de champ.
Exactement. Voilà. Pendant le premier confinement, on a essayé de faire le premier. On était dans les premiers à faire des concerts filmés et retransmis proprement, c'est-à-dire pour sortir un peu du truc. Vous savez, les concerts en caleçon dans la cuisine avec une guitare filmée par
comme
un téléphone portable.
Francis voilà. Cabrel.
Oui, comme voilà, je cherchais son nom. Et à un moment, je me suis dit quand même, on sait faire mieux que ça. Et il y a des tas de gens qui ont pas de boulot et qui sont pas exactement juste chanteurs musiciens, mais les salles de concert déjà. Mais les gens qui font de l'audiovisuel, les cadreurs, les monteurs, etc. Et on a lancé un truc comme ça, toujours sur le mode crowdfunding, participation. On dit que le concert est payant. Il était en accès libre, mais on disait que pour produire ça, il fallait participer. Et en fait, ça a équilibré les frais et on a réussi à payer tout le monde, louer la salle, payer les techniciens, payer les artistes. Et j'ai fait deux sessions comme ça, de deux chanteurs à chaque fois, qui sont toujours disponibles sur Internet. Ça s'appelle les concerts démasqués. Et voilà, on peut toujours les regarder et on peut toujours participer sur
Hello. Tant qu'à faire, il y a un actionnaire.
Les concerts démasqués, il y en a deux. Il y a un concert de Evelyne Gallet et moi et un concert de Gérard Morel et Anne-Lise Roche.
Voilà. D'accord. On va écouter justement quelqu'un de Lyon que tu m'as suggéré.
Et dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Frédéric Bobin, je crois.
Frédéric Bobin, voilà.
Qui écrit en duo avec son frère. Son frère, lui, il fait des textes, il fait des musiques et il va les interpréter sur scène. Et voilà, c'est un des mecs que je kiffe bien. Je vends ses albums aussi sur la boutique. Ah oui, je suis distributeur aussi. J'ai une boutique internet où il y a plein de disques de chanteurs et de chanteuses indépendants qu'on ne trouve pas ailleurs, histoire de créer des liens entre des Manu Gallure, des Frédéric Bobin, des Lily Lucas. Voilà.
en définitive, on avait vraiment besoin de ce temps-là pour arriver à faire le tour de ton activité, parce que c'est
ouais, c'est une deuxième émission, je reviens la semaine prochaine.
Peut-être.
Non, t'en auras marre.
Pour les bis. Non, au contraire, je trouve que c'est bien. On est en train d'apprendre quelque chose avec toi de vachement intéressant sur la manière dont des artistes peuvent à un moment donné multiplier les entreprises, multiplier les perspectives qui se donnent et qui donnent à d'autres. Et pour beaucoup qui sont un peu encalminés, ça peut avoir un réel intérêt, à mon avis.
Donc, et ben, j'espère. Désencalaminons. C'est pour ça qu'on le fait. Hein, désencalaminons.
Voilà.
Décalaminons. C'est comme ça qu'on dit.
Non, mais il ne s'agit pas de vélo Solex, là. Tatiana sur le périph, par Frédéric Bobin.
C'est parti.
Elle vient des plaines d'Ukraine où ne poussent plus les graines. Elle a laissé ses petits frères sous la centrale nucléaire. Elle rêvait de grands espaces. La voilà qui fait des passes, des billets pleins le soutif. Tatiana sur le périph. Elle se tendine au feu rouge entre Vincennes et Montrouge. Et si loin de la toundra, elle se roule dans tous les draps. Elle accepte les rencarts des toqués et des tocards, quitte à revoir ses tarifs. Tatiana sur le périph. Dans sa baraque de briques, son grand-père était moujik, toute sa vie courbée l'échine sous le portrait de Staline. Puis un jour le mur se brise, on prépare sa valise, mais le même destin nous griffe. Tatiana sur le périph. De temps en temps de l'oseille à ses parents. Elle dit qu'elle est comédienne, elle leur écrit que tout baigne et qu'elle reviendra bientôt, les bras chargés de cadeaux, serment d'amour excessif. Tatiana sur le périph. Elle dit qu'elle les sauvera de la peste, du choléra, qu'elle construira des collèges dans ce grand désert de neige. En attendant, elle racole les yeux embués d'alcool, mais le cœur encore naïf. Tatiana sur le périph. Vient des plaines d'Ukraine où ne poussent plus les graines. Elle a laissé ses petits frères sous la centrale nucléaire. Elle rêvait de grands espaces. La voilà qui fait des passes, des billets pleins le soutif. Tatiana sur le périph.
Écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
C'était donc Tatiana sur le périph par Frédéric Bobin. Alors pour les auditeuristes de Jet FM, vous n'aurez pas la version qu'on a eue en live parce que pendant que le disque passait dans le café Mon Oncle, eh bien Nicolas jouait de la guitare en même temps. Est-ce que c'est toi qui as enregistré la partie de guitare dans ce
Mais
disque?
Mais pas du tout, tu rigoles, je joue 10 fois moins bien de la guitare que Frédéric Bobin.
Bon, Mais dis donc, justement, t'as l'air d'être chaud là. T'as l'air d'être prêt à chanter et à nous jouer quelque chose. J'ai le sentiment que ce serait bienvenu à l'heure qu'il est.
Carrément, c'est le moment.
Ah ben, de toute évidence. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait besoin de dire ? Si, il faut qu'on parle quand même
des
dates.
Non, non, il y a des concerts quand même.
Il y a des concerts, exactement.
Alors, si j'ai bien compris, l'émission est enregistrée et elle passe en direct, mais 3 jours plus tard,
samedi,
c'est ça ?
Samedi, ouais.
Samedi. Donc samedi, concert, alors on peut annoncer le concert d'avant-hier, du coup, puisqu'on est samedi, puisque jeudi soir, je jouerai au bar moi, chez mon oncle. Et franchement, vous avez loupé un truc dingue. Le concert était vraiment mais dingue. Alors là, je dis ça, mais en fait, c'est demain, donc je ne sais pas. Mais apparemment, le concert va être dingue.
Oui.
Par contre, comme on n'est que samedi, vous pouvez encore abreuver de mails et de coups de fil Valérie, chez qui je joue demain dimanche. Valérie, elle est là, à côté de nous, et elle organise des concerts chez elle. Et c'est des concerts privés, mais ouverts au public, à Thoiré-sur-Loire, donc vraiment collé à Nantes.
Hein. Et pour avoir les coordonnées de Valérie, il suffit d'aller
sur mon site internet, Facebook, Nicolas Bacchus, et où il y a le mail de Valérie. Vous pouvez lui envoyer un mail. Je crois qu'il reste quelques places. Alors après, c'est quand même chez elle. Hein. C'est une petite maison. Il y a 30, une fois que vous serez 30, vous serez serré. Mais vous pouvez venir. Si ça se trouve, elle ne vous demandera même pas votre passe sanitaire, mais moi, ouais. Non, vous inquiétez pas, moi je suis en face, c'est moi qui vous crache dessus. donc, voilà, vous pouvez venir encore dimanche 20 prout, 23.
Et ce samedi même.
Et ce samedi même, ce soir,
voilà.
Je serai à Saint-Brieuc.
Et là, donc, il faut téléphoner aux amis à Saint-Brieuc.
Là, je ne sais pas si ça capte ta radio à Saint-Brieuc, non ?
Non, mais il faut téléphoner aux amis de Saint-Brieuc pour qu'ils ramènent du monde pour aller auprès de mon arbre.
Figure-toi que Saint-Brieuc, je joue dans un bar qui s'appelle Auprès de mon arbre et qui est tenu par le même type qui tient mon oncle à Nantes. Incroyable, ouais,
c'est,
non ?
C'est un trust.
Ben ouais. Voilà. Donc, voilà.
Donc
coucou à Pierre qui nous accueille auprès de mon arbre. Et apparemment, il y a des chanteurs et des chanteuses à Saint-Brieuc qui ne vont pas louper le concert. Et il y aura sûrement des duos, des surprises, au moins avec une chanteuse qui s'appelle Léonore Bolcato, qui habite là-haut et qui a, je crois, remué ciel et terre pour ramener du monde auprès de mon arbre. À mon avis, il va y avoir une ambiance de dingue. C'est ce soir à Saint-Brieuc. Donc là, tu vois, t'écoutes l'émission, il dit quoi ? On est entre midi et deux, c'est ça ?
Voilà, on a largement
le temps de prendre ta caisse, d'aller à Saint-Brieuc, un petit TER, voilà. Et on vient foutre le dawa auprès de mon arbre à Saint-Brieuc.
Et vous jouerez sous l'arbre ? Il va faire peut-être frais. Hein.
Ouais. Peut-être, à mon avis, on va jouer en intérieur, hein. Oui.
Voilà. Ben écoute, on va t'écouter maintenant interpréter trois chansons pour le public ébahi de mon oncle.
C'est
qui va découvrir le véritable talent, le seul qui nous intéresse vraiment. Mais après qu'on ait parlé de boutique, de production, de distribution, de je sais pas quoi, d'arrangement, bah là voilà, il prend sa guitare et on va aller à l'os.
En 76, Renaud avait fait une chanson qui s'appelait Hexagone. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était au mois de janvier. Tu vois, il s'embrasse au mois de janvier, car ça passait tous les mois comme ça. Et le refrain, c'est le roi des cons sur son trône, tout ça. Ça te dit rien ? Dingue. 20 ans après, Fontéval avait fait une Hexagone 2 sur l'état de la France également, mais 20 ans après. Et là, comme on est de nouveau 20 ans après, c'est Hexagone 3, où j'ai mixé la version Fontéval, le découplé que j'ai rajouté, etc. Donc, voilà, accroche-toi, t'es prêt ? T'es pas prêt. En 1976, tu as couché d'une chanson qui bottait le cul de la Marseillaise et qu'on chantait à plein poumon. On l'a tous encore en mémoire et aujourd'hui, moi j'aimerais bien apporter 40 ans plus tard un peu de flotte à ton moulin. Car depuis 40 ans, le roi des cons s'est vraiment distingué. Voilà qu'il suce les Chinois pour leur fourguer le TGV. Alors ça, on pourrait croire que je l'ai écrit, mais non, c'était déjà dans la version d'il y a 20 ans. Comme quoi, les années passent, les problèmes restent. Ça fait des pognes qui se serrent sur des cadavres d'étudiants. Ça pue la mort, mais en affaire, on sait que l'odeur n'a pas d'argent. Il a pas changé l'hexagone. Il est même devenu si con que le roi descend de son trône pour s'habiller chez Benetton. L'instituteur doit enseigner l'anglais au cours élémentaire, mais comme il a tout oublié depuis la fin du secondaire,
faudra payer les professeurs. Mais comme on veut pas les payer, il n'y aura pas de professeurs. C'est pas grave, on est habitué. Si tu retrouves ta mobilette, ne roule pas trop dans la banlieue. On n'attend plus qu'une allumette pour embraser le dernier feu. Depuis 1976, tous les ministres concernés ont dit qu'il y avait un malaise, n'est-ce pas, avant de repartir déjeuner. Il se fout de notre gueule du haut de son trône, le roi des cons jusqu'au jour où tous les malabars de la zone vont l'enfiler par tous les trous. On nous a gonflé sans répit au cours des années 80 avec le style Bernard Tapie qui a forgé tant de crétins. Qu'aujourd'hui la compétition est devenue un art sacré, c'est tripé pour le pognon, le sport et la célébrité. Et un petit couplet MeToo. Depuis 1976, le féminisme a progressé. Pas pour les salopes qui aiment la baise, celles-là se font toujours insulter. Il y a toujours l'usine et l'armée, les femmes se font soldats, patrons. À croire que tout ce qu'on peut espérer, c'est que la conne soit l'égale du con. Mais pour égayer l'hexagone, l'Europe est arrivée avec 33 des cons sur 30 trônes, bénis par un pape au gland sec. Depuis 1976, les politicards sont les mêmes, inaugurant les chrysanthèmes, en chevrotant lapin pour la haise. Toujours les mêmes gueules à l'écran, qui ont tout juste un peu vieilli, et n'ont appris en 40 ans qu'à dire 40 fois plus de conneries. Il y a tout de même une exception, avec Macron, le roi des masses, qui doit descendre d'un bourbon, niqué par un premier de la classe. À chaque fois qu'il s'effondre dans les sondages, on est étonné, au lieu de se demander comment un jour sa cote a pu monter. C'est la folie dans l'hexagone, le résultat des élections n'étonnera certainement personne. Il sera élu le roi des cons.
Merci beaucoup. Donc c'est la fameuse chanson que Manu Gallure, qui a déjà écrit quelques chansons. Moi j'ai produit ses albums et puis quelques tournées, mais lui en échange il m'a offert des chansons pas dégueu pour les miens. Il y a une chanson qui s'appelait Fontaine qui est devenue un peu une chanson emblème. Et du coup pour ce sixième album qui tarde à arriver, il m'en a aussi écrit une, mais du coup elle est sur aucun album puisqu'il n'est pas fait. Puis elle est toute neuve et je ne l'ai pas apprise, donc voilà. Première mondiale sur les ondes de Jet FM, c'est ça ? Oui, je vis dangereusement, exactement. J'ai tout commencé tard et je me lève à 7h. Je salue les éboueurs et puis je vais au café, j'ai mordu mes premiers hommes, j'étais déjà un homme, j'ai tout commencé tard, je me suis rattrapé. J'ai tout commencé tard, tous les matins encore, je longe la tête d'or jusqu'au marché montgolfier. J'ai pas roulé en cachette ma première cigarette, j'ai commencé très tard, j'avais l'âge de fumer. Un brin d'herbe et d'alcool pour en penser quelque chose, mais j'étais plus assez rose pour en être émoustillé. Je prends le quai de Serbie aux alentours de midi, je rentre par les écoles et me prépare à manger. J'ai tout commencé tard, il fait très beau dehors, je m'allonge et je m'endors dans les bras du canapé. La vie rangée, les ménages, les enfants, le mariage. J'ai commencé si tard, j'ai même pas commencé. J'ai
Tout commençait tard, j'attends derrière la porte que mon gentil voisin sorte et par hasard le croiser. J'étais déjà trop vieux pour mon premier amoureux. J'ai tout commencé tard, je recommencerai. Le temps perdu, les attentes des garçons que j'invite, qui font tout un peu trop vite et partent sans dîner. Je suis encore en retard, j'enfile ma guitare, il est 18h30, je m'en vais travailler. Chanter bien trop tard pour qu'on me trouve un talent, qu'on dise « Ah, dans 10 ans, vous verrez, vous verrez. » D'ailleurs, chanter des chansons, c'est plus vraiment de saison. J'ai tout commencé tard, des choses dépassées. J'ai tout commencé tard et je me couche tôt, le cœur et les pieds au chaud. Je me rends compte, amusé, qu'il faut beaucoup de temps pour être moins impatient. J'ai tout commencé tard et j'ai tout savouré. En marchant comme on s'égare, j'apprenais à m'attendre, à devenir plus tendre, presque réconcilié. Combien d'heures encore pour accepter la mort? Je commencerai plus tard, je ne suis pas pressé. J'ai tout commencé tard. J'ai tout commencé tard. J'ai tout commencé tard. Je finirai plus tard.
Merci, monsieur, dame.
C'était Manu Gallure, merci, Manu Gallure, l'auteur de cette chanson.
Voilà.
Voilà, et l'interprète en est Nicolas Bacchus, qui est notre invité ce soir. Merci Nicolas de nous avoir offert ces quelques instants de musique live.
Ben, merci à vous, et donc à demain pour vous, ou à avant-hier pour les auditeurs.
Voilà.
Au bar chez mon oncle, et sinon à ce soir à Saint-Brieuc, à demain chez Valérie à Thoiret.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, cette rencontre avec le chansonnier Nicolas Bacchus. Il y avait d'autres chansons, mais voilà, une heure est vite passée, et si vous voulez en entendre plus, il reste encore une date demain soir à Thoiret. Je vous invite à vous porter vers le site internet ou vers le Facebook de Nicolas Bacchus, où vous aurez tous les renseignements possibles et imaginables. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la première partie de cette soirée chez mon oncle. Allez, bon week-end.
Pends-toi ma langue et fais tout ça. Pom, pom.